Les enjeux de l'œcuménisme, présentation générale. Nous retrouvons Mgr André Duplex pour la deuxième et dernière partie de son intervention, intervention enregistrée le 17 octobre 2019 à Pau, lors d'un cycle proposé par le service diocésain de la formation permanente et par le service diocésain de l'œcuménisme. Mgr André Duplex est théologien, recteur honoraire de l'Institut catholique de Toulouse et professeur à l'ATPA, l'antenne de théologie des Pays de l'Adour. Les enjeux de l'œcuménisme, présentation générale. Voici la seconde et dernière partie de l'intervention de Mgr André Duplex.
Quatrième point, des accents singuliers ou l'unité différenciée. Donc, vous allez voir, l'unité acquise. Ce qui est acquis. On ne pose plus de problème là-dessus. Ce qui est acquis. Moi, j'ai fait baptiser, j'ai participé pendant quelques années avec Michel Nord, avec d'autres pasteurs amis, à des baptêmes. C'est le pasteur qui a baptisé, et à trois reprises, il a baptisé un catholique. Enfin, il a baptisé un catholique, ça ne veut rien dire. Il a baptisé quelqu'un qui s'inscrivait dans une tradition catholique et qui ensuite allait aller au catéchisme de l'Église catholique. Mais c'est le pasteur qui l'a baptisé. C'était formidable comme geste. Les gens, ils n'en revenaient pas. Il a dit, ça peut se faire. Mais oui, bien sûr que ça peut se faire. C'est la même foi trinitaire, n'est-ce pas? Alors, des accents singuliers ou l'unité différenciée. Qu'est-ce que je veux dire? Si l'on veut exprimer la singularité actuelle de chaque confession chrétienne, à partir de la base commune que nous venons de rappeler, il faut tenir compte dans le mouvement œcuménique actuel de trois aspects devenus indissociables. Le premier relève de la différenciation culturelle qui marque le christianisme en raison de son développement dans le monde. C'est le cas dans les rapports entre l'Orient et l'Occident. Et ça continue. On continue de voir les différentes sensibilités entre les orientaux et les occidentaux, n'est-ce pas ? Le deuxième aspect relève de la nature même de la foi chrétienne et de sa source trinitaire, qui lui confère dès le départ et en permanence une grande diversité d'expressions et de formes. Trinité. Le troisième aspect relève des contentieux directement liés aux événements de l'histoire et aux divisions qui se sont produites. Eh bien, les contextes ont changé. Une part des dialogues engagés et des recherches poursuivies a permis d'écarter un certain nombre de raisons de rester séparés. Pour beaucoup, cependant, un retour à la communion des Églises devrait tenir compte des deux premiers aspects, la différence n'étant plus, comme ce fut le cas dans le passé, et dans le cadre d'opposition institutionnelle ou de conflits, de véritables sources de rupture. Les différences ne sont plus de véritables sources de rupture. Comment s'exprime aujourd'hui cette singularité des quatre grandes confessions chrétiennes? Quels sont les traits qui les caractérisent davantage et qui marquent nécessairement leurs engagements dans le dialogue œcuménique? Quels accents forts maintiennent-elles, ces quatre traditions, on va le voir, hein, en complémentarité avec les autres, mais aussi en résistant à ce qui pourrait leur apparaître comme une renonciation à leur caractère propre? La singularité du catholicisme, on commence. Apparaît sur deux plans majeurs. Sa conception de l'Église, sacrement, de la présence de Dieu, et sa structure ministérielle appuyée sur la succession apostolique. L'Église est dans sa visibilité médiatrice du salut donné par Dieu au monde. Et le Concile Vatican II précise qu'elle est l'Église dans le Christ, en quelque sorte, c'est prudent quand même, hein, dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement. C'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Corps du Christ, elle manifeste sa présence par les signes que sont les sept sacrements, qui ne se contentent pas d'indiquer, mais qui donnent la grâce du salut. La communion de l'Église est assurée par le ministère apostolique, celui des évêques, uni à l'évêque de Rome, qui est le pape. N'oublions pas que le pape, c'est l'évêque de Rome d'abord, hein. C'est pas le pape, c'est l'évêque de Rome, hein. C'est pour ça qu'un pape qui n'est pas italien, il faut qu'il se coltine l'italien, hein. Il faut qu'il puisse parler aux Italiens et aux Romains, n'est-ce pas? Donc c'est important. Autour de l'évêque de Rome, ça c'est la sensibilité catholique propre, bien sûr. Cette structure apostolique permet à l'Église catholique d'être présente sur toute la terre, dans la diversité des églises locales, mais en maintenant un pôle d'unité avec l'évêque de Rome. La singularité de l'orthodoxie apparaît dans sa conception conciliaire de l'Église. sa spiritualité et la richesse de sa tradition liturgique, mais aussi dans sa conception de l'homme image de Dieu. Il y a une anthropologie assez spécifique dans l'orthodoxie. L'homme image de Dieu est appelé à être, jusqu'à dans son existence la plus concrète, un contemplatif. Les églises particulières sont autonomes dans l'orthodoxie. Leur unité réside dans la communion en une même foi. Le patriarche œcuménique de Constantinople a une primauté d'honneur, mais pas de pouvoir réel sur les églises, qui n'ont autorité que réunie en synode, on l'a fait récemment, mais il manquait la Russie, c'est dommage, mais pas de pouvoir réel sur les églises, elles n'ont autorité que réunie en synode, les églises, ou en concile. Là, elles ont autorité, mais pas chacune de leur côté. Enfin, la tradition orientale nous rappelle à tout moment l'importance de la dimension intérieure et d'une certaine façon le visage mystique de l'existence et de l'histoire. Tel est le sens de la sainte liturgie et du culte des icônes. La célébration de l'Eucharistie est au cœur de la vie de l'Église, unissant par la prière et l'action de l'Esprit Saint, contemplation et présence au monde. Je vais vous raconter un petit fait à propos de ça dans un instant. L'homme y fait l'expérience de Dieu et il est transformé. Ça, c'est très important pour lui, dans la liturgie orthodoxe. Le Concile Vatican II a rappelé d'ailleurs que les églises d'Orient possèdent depuis leur origine un trésor auquel l'Église d'Occident a puisé beaucoup d'éléments de la liturgie, de la tradition spirituelle et du droit, des richesses spirituelles qui élèvent l'homme tout entier à la contemplation des mystères divins. Je me souviens, nous préparions pour la semaine de l'unité une célébration, et à un moment donné, il y avait donc le frère orthodoxe qui était là, le prêtre orthodoxe, le responsable de la paroisse, le frère protestant, moi-même, et puis deux ou trois autres. Et alors, on bâtissait, et puis à un moment donné, il faudrait. C'est moi qui ai eu le malheur de dire. C'était une très belle liturgie. J'ai eu le malheur. Et il faudrait peut-être une prière universelle. Une prière universelle, mais. Alors, l'autre, il me bondit dedans, l'orthodoxe, très gentiment. Hein. Il me dit, ah, ça, c'est bien catholique. Ah, ça, c'est bien les catholiques. Il faut une prière universelle pour parler du monde. Alors, vous allez parler du monde. Je me demande, prière universelle. Mais c'est toute la liturgie, il me dit. Qui est universel. C'est toute la liturgie qui parle du monde. C'est toute la liturgie qui parle de la relation entre Dieu et le monde. On va te faire plaisir, André. On va mettre une prière universelle. On a fait une belle prière universelle. J'ai fait en sorte qu'elle soit très proche de la sensibilité orientale. Mais c'est pour vous dire que on a l'impression quelquefois, d'ailleurs, je vous rappellerai à la fin tout à l'heure, que les orthodoxes, c'est très beau, c'est superbe, c'est très beau. Il faut avoir le temps. Hein. Il faut avoir une heure ou deux heures ou trois heures devant soi. Enfin, je veux dire, c'est superbe, c'est magnifique, mais alors, où est le monde là-dedans? Enfin, un pipeau, ça veut dire quoi, où est le monde? Non, ils y sont dedans. Ils y sont dedans, beaucoup plus que nous ne le croyons. Donc, il y a une sensibilité, voilà, c'est ce que je voulais rappeler. Là. La singularité du protestantisme s'exprime encore aujourd'hui dans sa fidélité aux trois grands principes de la Réforme, la foi seule, l'écriture seule, la grâce seule. Je dis ça en tremblant devant mon frère pasteur, tu m'arrêtes si jamais tu sens que je dis quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Hein. Ces trois affirmations, la foi seule, l'écriture seule, la grâce seule, se voulant l'expression en même temps de la liberté humaine et d'une totale confiance en Dieu. L'Église, au nom de l'Évangile, et conduite par l'Esprit Saint, doit constamment se réformer de l'intérieur. S'il y a une dimension apostolique de l'Église, assurée par la foi des croyants et leur témoignage, il n'y a pas de succession des apôtres. Voilà. Les églises locales sont des communautés de fidèles au service desquelles sont différents types de ministères, dont celui de pasteur, le plus important, signifié aussi par une consécration ou une ordination qui indique la spécificité de la charge. Les protestants résistent, soucieux de garder la liberté de l'Évangile, à toute formalisation ou instrumentalisation du lien entre l'homme et Dieu. L'essentiel, c'est le témoignage de foi au nom du Christ qui sauve chacun, non point en raison de ses mérites, mais par surabondance de grâce, trouve le grand Luther, si j'ose dire. La singularité de l'Église anglicane, appelée d'ailleurs communion anglicane, tient à son origine qui lui a donné et lui maintient une double référence catholique et réformée. De fait, les anglicans, par l'organisation des églises et l'expression de leur foi, s'inscrivent bien dans les deux traditions. La dualité d'influence apparaît dans la coexistence du ministère épiscopal et, l'autorité, et de l'autorité de la Bible, coexistence, hein, dans l'importance de la liturgie et la reconnaissance de deux seuls sacrements, baptême et eucharistie. Il y a une grande pluralité, je dirais, chez les anglicans de courants théologiques et pastoraux, qui se répartit entre la Low Church, la basse église, de tendance plutôt réformée, et la High Church, haute église, de tendance plus catholique. Roger Greenacker résume bien cette situation particulière en parlant d'une église appelée à jouer, non sans difficulté cependant, en raison de décisions comme celle de l'ordination des femmes, un rôle œcuménique. La volonté de l'Église anglicane d'être à la fois catholique et évangélique, la coexistence dans la comprehensiveness, la tension compréhensive mutuelle, c'est leur grande qualité, c'est la comprehensiveness. On peut passer beaucoup de choses avec ça, mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire la coexistence de différentes traditions théologiques, tous ces facteurs donnent apparemment à l'Église anglicane la vocation providentielle d'être une Église pont entre catholicisme et protestantisme. Ça peut se discuter. Cinquièmement, ce qui a progressé ou l'unité avancée. Je crois que ce qui progresse aussi, c'est l'heure. Mais je vais aller jusqu'au bout quand même. Allez, c'est la première. C'est la première intervention. Ça va ? Ça va ? D'accord. Alors, l'unité avancée. Il est possible d'affirmer qu'à la suite de multiples initiatives prises par les églises, en particulier le grand nombre de dialogues engagés, l'unité entre chrétiens a réellement progressé. Réellement progressé. Je suis plutôt optimiste en la matière. Je suis plutôt optimiste. Ça va se voir, se sentir. Je ne vais pas changer de caractère, hein, c'est comme ça. Et en plus, mon optimisme est accentué par le travail que j'ai fait depuis des années et des années, hein, ou des décennies, avec mes frères. Hein. Donc, l'unité a progressé. Quatre domaines peuvent être évoqués. Premier grand domaine, particulièrement dans les relations avec le protestantisme, c'est la place donnée à l'écriture. La parole de Dieu occupe désormais une place essentielle, non seulement dans les célébrations communes, mais dans la recherche théologique, où une réelle collaboration s'est établie entre les spécialistes de la Bible. Et la nouvelle perspective ouverte par Vatican II sur les liens étroits entre l'écriture et la tradition a joué sur ce plan un rôle déterminant. Le second domaine, c'est celui de la prise en compte de l'histoire et des contextes dans lesquels se sont produites des séparations successives. Les dialogues théologiques et les recherches historiques les plus sérieuses aidant ces recherches, ces dialogues étant une aide considérable, les églises historiquement divisées ont appris à mieux se connaître, à mieux mesurer le poids des circonstances sociales ou politiques dans lesquelles se sont produites des divisions, autant que le nouvel environnement religieux et culturel dans lequel s'est développé le mouvement œcuménique. Quand même, c'est pas rien. Le XXe siècle, il y en a eu des choses qui se sont produites. Il y a eu des changements, il y a eu des transformations par rapport au XIXe siècle précédent. Et cela a conduit à des gestes significatifs institutionnel significatif de la part des hauts responsables. En 1965, ce fut la levée simultanée des anathèmes et excommunications lancés entre Rome et Constantinople, en 1054. Cette levée faite par le pape Paul VI, le patriarche Athénagoras, levée, il n'y a plus d'anathème, il n'y a plus d'excommunication. L'année suivante, lors de la visite à Rome du primat de la communion anglicane, le docteur Ramsay, le pape, en signe du lien entre leurs deux ministères apostoliques, lui a mis au doigt son propre anneau pastoral. Par ailleurs, un certain nombre de recherches et de déclarations, dont celles issues du dialogue entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale sur Martin Luther, témoin de Jésus-Christ, 1983, permirent de lever quelques malentendus ou idées fausses, tout en appréciant mieux les raisons réelles et les conséquences de l'attitude des réformateurs, situées dans l'histoire. Troisième domaine, c'est celui de la théologie, la théologie et la liturgie. Théologie et liturgie. Nous n'en retenons concernant ici que quelques traits saillants. Parmi les avancées les plus notables du dialogue avec les églises, de la réforme en particulier, il y a, sans que les divergences soient toutes levées, une meilleure compréhension de l'Eucharistie. et de la scène du Christ. Cela apparaît particulièrement dans la mise en valeur du thème biblique du mémorial. C'est pour ça que je vous ai mis ce passage derrière. Hein, c'est-à-dire du signe vivant et efficace du sacrifice du Christ. Et la reconnaissance, différemment exprimée cependant, de la présence réelle du Christ. Luther parlait de la présence réelle. Luther parlait de la présence réelle du Christ. Après, il y a tous les débats avec la philosophie d'Aristote, la matière, la substance et l'accident, etc. Aristote est partout. Hein. De toute façon, il est encore présent. Hein. Mais je veux dire qu'il faut dépasser. On est arrivé à parler de la transsubstantiation, rendez-vous compte. Je le reconnais. Je dis le mot, hein. Je suis catholique. Transsubstantiation, très bien. Bon. À l'époque, on avait voulu parler de la consubstantiation, c'est-à-dire deux substances en même temps, et pas une seule substance. Vous voyez les débats dans lesquels on est arrivé. Eh bien, finalement, le fait de pouvoir parler de présence réelle du Christ, et mon ami Michel Nord, que chaque fois que j'ai participé à un culte au temple, me disait, tu vois ce pain, eh bien, tu vois, je le respecte après. Voilà, je le respecte. On ne jette pas le pain qui reste, bien sûr. C'est pas un tabernacle. Voilà. Mais il mettait, j'ai vu à la sacristie, il y avait du respect pour le pain, qui avait été le pain, signe de la présence du Christ. Et signe pendant la scène, de la présence réelle de Jésus pendant la scène. L'archique également, la commission mixte de l'archique avec les anglicans, qui est arrivée à dire ceci, rendez-vous compte, nous croyons que la primauté de l'évêque de Rome peut être affirmée comme une partie du dessein de Dieu pour la communion universelle, dans des tenues compatibles avec nos deux traditions. On peut également et sérieusement penser, je vous en parlais à l'instant, que les difficultés avec l'orthodoxie liées au débat dogmatique sur le filioque ont été en partie levées. Avec les luthériens, bien sûr, la déclaration commune sur la justification a été saluée comme une avancée œcuménique considérable. Quatrième domaine, qui peut sembler plus discret, mais n'en a pas moins joué jusqu'à ce jour un rôle significatif, je tiens beaucoup à ce domaine-là parce que j'ai des amis très chers, hein, dans l'œcuménisme et dans l'amitié tout simplement, et qui sont dans ce cas-là, ce sont les foyers mixtes. Ce sont les foyers mixtes. Ils ont joué un rôle très important, les foyers mixtes. C'est un œcuménisme concret, n'est-ce pas? Pour ces couples vivant concrètement la double appartenance religieuse au sein de leur foyer chrétien, il y a, au-delà des difficultés qui peuvent demeurer dans la position respective des églises, concernant en particulier l'éducation religieuse, c'est pas toujours facile, et il y a un véritable signe de communion réalisé dans l'amour. C'est cela, l'église domestique. Jean Chrysostome parlait de l'église, des foyers dans le mariage, comme une petite église, une église domestique. Et là, elle y est vraiment, dans ces foyers mixtes. Comment ne pas enfin évoquer ici, complémentairement au travail considérable réalisé par le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, à nouveau, j'en parle, cette encyclique. Ça fait trois fois que je la cite, hein. Je regarderai d'ailleurs, je relirai, pour savoir. Je ne me répète pas, hein. Mais elle est tellement importante pour moi, cette encyclique, Utunum Sint du pape. C'est comme l'encyclique Laudato Si de François sur l'environnement, en rapport avec François d'Assise, bien sûr. C'est un texte extraordinaire, bien sûr. Tous les textes. Je suis très catho, monsieur le pasteur, en disant cela, mais vous le comprenez. Mais j'essaie de voir tout le bien qu'il peut y avoir dans certaines déclarations. Et François a été très chouette, là. Il nous a aidés. Il nous a aidés, et il est dans le débat politique, en plus. Et il a été salué. C'est un cyclique qui a été salué par le monde économique et par les écologistes, bien sûr. Mais je crois que pour Jean-Paul II, on l'a dit aussi pour cette encyclique. Je cite... Le pape, c'est une tâche immense que nous ne pouvons refuser et que je ne puis mener à bien tout seul. Aidez-moi, il a dit à plusieurs reprises. Aidez-moi. Aux frères séparés, aidez-moi. La communion réelle, même imparfaite, qui existe entre nous, ne pourrait-elle pas inciter les responsables ecclésiaux et leurs théologiens à instaurer avec moi, sur ce sujet, un dialogue fraternel et patient dans lequel nous pourrions nous écouter au-delà des polémiques stériles, en ayant à l'esprit que la volonté du Christ pour son Église et son cri que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors ce qui résiste le plus ou l'unité freinée, tous ces accents et ces éléments positifs ne doivent pas nous masquer les points de divergence qui demeurent. ils apparaissent même dans certains cas comme des blocages résistants, sans que l'on puisse parler pour autant d'une unité menacée. D'une unité menacée. Je ne l'ai pas mis, hein, unité menacée, j'ai dit unité freinée. Avec le protestantisme, compte tenu de la diversité de ses sensibilités internes, bien sûr, le problème majeur vient de l'affirmation catholique que l'Église est sacrement, c'est-à-dire instrument de salut. Les sacrements célébrés sont des actes concrets de salut et le ministère des évêques et des prêtres, dans la succession ininterrompue des apôtres, s'inscrit dans cette perspective. Les églises de la Réforme récusent toute idée de coopération de l'Église au ministère du salut, qui ferait d'elle, au nom de Dieu, et qui ferait d'elle et non de Dieu, la source de l'auteur et l'auteur de la grâce. L'Église est la source et l'auteur de la grâce. Non, c'est Dieu, hein. Pour la tradition réformée, l'Église, réalité spirituelle et visiblement manifestée par les communautés croyantes, est avant tout témoin du Christ, seul sauveur. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, l'apostolicité de l'Église n'est pas de l'ordre de la succession des ordinations, mais de la continuité de la foi attestée dans la vie des croyants. Entre l'orthodoxie et le catholicisme, la conception théologique de l'Église est la même, comme celle de la succession apostolique et du ministère ordonné. L'obstacle résistant, là aussi différemment exprimé, selon les patriarcats orthodoxes, c'est la place et le rôle effectif de l'évêque de Rome, le pape. S'il est reconnu comme patriarche d'Occident, titre d'ailleurs que le pape Benoît XVI a retiré de la liste officielle, je regrette. Il y avait un certain nombre de titres du pape de Rome, et il y avait patriarche d'Occident. Eh bien, c'est très bien. Il aurait dû le garder, Benoît XVI. Je le respecte, bien sûr. Mais je veux dire que... j'étais heureux de voir patriarche d'Occident, parce que ça signifie que s'il y avait une démarche communique avec les orthodoxes, on arrivait à se mettre d'accord. Il peut y avoir un patriarche d'Orient, il peut y avoir un patriarche d'Afrique, il peut y avoir un patriarcat d'Amérique latine, etc. C'était très, très bien. Bon, enfin, ça a été enlevé, un point c'est tout. Également, sujet de discorde, tout ce qui peut être considéré comme une forme de centralisme romain, s'exprimant entre autres par des déclarations officielles unilatéralement décidées. Difficulté. Avec la communion anglicane, deux difficultés subsistent. La première reste la non-reconnaissance par l'Église catholique de la valeur des ordinations faites depuis la séparation. Même si sur ce plan, les dialogues engagés et le nouveau contexte dans lequel ils se déroulent laissent envisager une possible ouverture. C'est-à-dire qu'avec les autres, si on reconnaissait, si l'Église disait, je reconnais, le magistère de l'Église catholique, je reconnais la valeur des ordinations faites depuis la séparation. D'un seul coup, tout est débloqué. Tout est débloqué. Parce que la liturgie anglicane est très très proche de la liturgie catholique sur ce plan-là. Ben, ce n'est pas le cas. Hein. Deuxième source de malentendu, c'est bien sûr... je suis en train de voir... une autre source de malentendu, c'est bien ça, oui. C'est la non-réception, voire le refus de déclarations, certes internes à ces églises, mais considérées comme source de nouveaux durcissements, en particulier dans le dialogue théologique. Je cite deux exemples significatifs. Le premier est la déclaration Dominus Jesus en 2000, de la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi, sur l'unique salut en Jésus-Christ, dans le contexte de la rencontre entre les religions. Un désaccord a été exprimé, surtout par les protestants et anglicans, et je le comprends, sur le refus, les concernant, de la désignation d'église, terme pourtant utilisé dans le langage courant de dialogue officiel ou de la participation aux instances internationales. Sur ce point, notre cher cardinal Pierre Hayt, décédé malheureusement trop tôt lui aussi, théologien remarquable, était en désaccord avec le cardinal Ratzinger. Il a dit publiquement son désaccord. Il a écrit, enfin, j'ai lu la lettre, et Hayt a dit non, ça, on ne peut pas le dire. Et comme Hayt était un homme éminent sur le plan théologique et qui faisait partie du corps cardinaliste, ben, ça a eu du poids quand même, si vous voulez. Mais ben, ça restait un point de débat, n'est-ce pas? Il est tout de même à noter que ces déclarations, donnant lieu à des échanges et à des explications toujours bénéfiques sur leur contexte, ne peuvent être considérées ni comme une interruption, ni comme un recul dans le travail accompli jusqu'ici. Alors, comment poursuivre ? C'est ma conclusion. J'y arrive enfin. Cette conclusion, un peu plus longue que d'habitude, pose une question commune et intégrée par les Églises engagées aujourd'hui dans la démarche œcuménique. À la fin de l'encyclique « Utunum Sins », ça vous parle encore, Jean-Paul II, comme un écho des paroles de Paul VI, rappelées à l'ouverture de ce chapitre, Jean-Paul II écrit « J'affirme que pour moi, évêque de Rome, l'engagement œcuménique est une des priorités pastorales de mon pontificat. » Jean-Paul II. Force est de constater que les 30 dernières années, ont été marquées par une quantité impressionnante d'initiatives, tant sur le plan des relations institutionnelles que des recherches engagées, qu'elles aient abouti ou non à des déclarations ou à des accords. Il n'y a qu'à lire régulièrement, par exemple, les comptes rendus sur l'actualité œcuménique de la revue Unité des chrétiens, pour se rendre compte. Mais alors, comment poursuivre ce qui est engagé et de manière, semble-t-il, irréversible ? Car ce qui est engagé est irréversible. Je vous le dis de toute ma force. Nous ne ferons pas marche arrière, quels que soient les vents contraires. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous sommes d'accord là-dessus. Je pourrais dire qu'il y a le baptême comme base commune et il y a l'affirmation qu'on ne reviendra pas en arrière. Ce n'est pas du même ordre, hein. Mais je les mets quand même à côté. Comment poursuivre ? Au point où nous sommes parvenus, et sans nier la permanence d'obstacles, trois ensembles de souhaits peuvent être formulés. Le premier relève de la conscience spirituelle des Églises, de leur communauté et des chrétiens qui les constituent. Conversion, patience et confiance sont les maîtres mots. Si la dimension spirituelle de l'œcuménisme fut la prise de conscience majeure des décennies passées, elle demeure la plus profonde dynamique des temps à venir. Conversion, patience et confiance. L'emblématique souhait de l'abbé Couturier garde toute sa valeur. L'unité que le Christ veut par les moyens qu'il voudra. Et cela suppose, de la part des personnes et de la part des institutions, la capacité de se situer en vérité face aux exigences évangéliques d'amour et de pardon, de conversion et de détachement. Et je vous assure que c'est difficile pour les institutions, parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas que les personnes qui doivent se convertir. Il y a aussi des institutions qui doivent se convertir. Il faut comprendre comment. Mais il doit y avoir une conversion. Et ça, c'est le catholique qui parle. Et je sais ce que c'est depuis quelque temps, et François a des difficultés sur ce point-là. Je le sais. Mais il faut y arriver. Il y a une conversion des institutions qui est absolument nécessaire. Hein. Cela dans le seul intérêt de la mission confiée par le Christ, et dont l'urgence apparaît de plus en plus nettement, au commencement, on peut dire, de ce nouveau siècle. Sans se précipiter dans des consensus qui ne seraient que de surface, mais en alliant patience et volonté effective de mettre définitivement fin aux divisions, les Églises n'ont jamais été aussi près d'une communion visible, tout en conservant leur originalité culturelle et spirituelle. C'est d'ailleurs là le second ensemble de souhaits, comprendre la pleine communion des Églises, non comme une fusion ou une absorption, ni comme une forme de retour au bercail d'origine, que représenterait l'une ou l'autre des Églises. Le catholicisme tient certes à la formulation conciliaire du subsistit in, cette unique Église du Christ, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité, heureusement qu'il y a ça, hein, se sont sauvés les évêques, hein, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures qui appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Voilà. Alors, non, c'est, vous relirez ce texte. Mais il s'agit de comprendre l'expression subsistitine, objet de longs débats à Vatican II, dans la perspective, tout simplement, d'une ecclésiologie de communion, un terme important actuellement, ecclésiologie de communion, dont Dieu est l'unique source, mais Dieu Trinité, attention, c'est important. Chaque Église est donc appelée à situer sa démarche à partir non point seulement de l'héritage passé, mais d'une communion constamment à construire et, disait le cardinal Willebrand, communion à maintenir par le don de la grâce et l'ampleur de la bienveillance divine. La recherche se poursuit aujourd'hui sur les modèles d'unité. Réfléchis, théologien, de tout bord, hein, catholiques, réformés surtout, hein, sur ce plan-là, hein, plus que, qu'avec les orthodoxes, les modèles d'unité, ou les formes que pourrait prendre cette pleine communion dans le respect des différences. Les expressions d'unité plurielle, de communion différenciée ont été utilisées, mais elles sont insatisfaisantes. Le mot communion est en tout cas plus apte à rendre compte de la richesse trinitaire qui doit demeurer la source du lien entre les églises. Le concept d'unité étant encore très souvent lié à tort d'ailleurs, je crois, à l'uniformité. C'est pour ça que nous utilisons le terme de communion. Une pleine communion devra nécessairement se traduire sur la base d'un accord plénier concernant la confession de foi, la vie sacramentelle et l'institution ecclésiale. La qualité des dialogues engagés laisse espérer, malgré les résistances, une progression décisive dans les années à venir. Le dernier ensemble de souhaits, je le ferai passer par un ami qui est décédé, hélas, qui a joué un grand rôle dans la vie œcuménique en France, le père René Giraud. Il appelait cela les questions croisées, ou la reconnaissance du point sur lequel chaque Église accepte d'être interpellée par les autres. L'Église catholique peut être interpellée par les autres Églises sur la forme du ministère d'unité et l'exercice de l'autorité de l'évêque de Rome. Les Églises de la Réforme peuvent être interpellées par les autres Églises sur leur conception de l'Église et du ministère apostolique. L'Église orthodoxe peut être interpellée par les autres Églises sur son rapport au monde et à l'histoire et sur le fonctionnement de la communion entre les patriarcats. La communion anglicane peut être interpellée par les autres Églises sur sa cohérence institutionnelle et son principe interne d'unité. Ces questions et la façon dont elles sont acceptées procèdent bien évidemment de l'attitude de conversion dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de l'aptitude qu'aura chaque Église à comprendre et à permettre que soient relevés ensemble, au nom du Christ, dont tous les baptisés sont les membres, les défis géants du monde actuel et de l'histoire à venir.
Les enjeux de l'œcuménisme, présentation générale. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention de Mgr André Duplex, intervention enregistrée le 17 octobre 2019 à Pau, lors d'un cycle proposé par le service diocésain de la formation permanente et par le service diocésain de l'œcuménisme.